Vous écoutez RFI, les 8h30 à Paris, 1h de moins en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal de Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, les regards toujours tournés vers Goma, dans l'est de la RDC. Sur le terrain, seuls quelques échanges de tirs ce matin pour une situation qui reste précaire dans l'ensemble. La diplomatie, elle, tente de trouver une sortie de crise, mais en vain pour le moment. Un rapport remis hier au président camerounais, un document de 1000 pages qui pose la responsabilité de la France dans la guerre contre les mouvements indépendantistes du Cameroun entre 1945 et 1971. 14 chercheurs français et camerounais appellent Paris à reconnaître son rôle. Un retrait désormais officiel, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel ont bel et bien quitté la communauté économique d'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont plus membres de la CEDEAO, mais cela ne concerne pas l'Union économique et monétaire, vous l'entendrez. Et puis au Tchad, succès Masra répond à la main tendue par Mahamat Debi. L'opposant se dit prêt à travailler avec le président. Relative accalmie, donc, enregistrée depuis hier après-midi sur le front de Goma, dans l'est de la RDC. Ce matin, seuls quelques échanges de tirs ont été entendus au niveau du camp militaire de Katindo, près de l'auditorat militaire de garnison de la ville. Une ville sous le feu depuis dimanche, depuis les affrontements entre les forces congolaises et les éléments du M23 soutenus par le Rwanda. Situation au cœur d'une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, hier la deuxième en l'espace de 48 heures. La chef de la diplomatie congolaise s'y est exprimée, Thérèse Kayikwamba Wagner. Elle a interpellé la communauté internationale une fois encore pour exiger le retrait des troupes rwandaises et pour réclamer des sanctions contre Kigali. Mais a-t-elle été entendue à New York? Compte rendu de Kerry Newton.
Depuis le premier Conseil de sécurité sur les affrontements autour de Goma dimanche, les voix se sont faites plus nombreuses pour demander au Rwanda de lâcher les miliciens du M23. L'ambassadeur chinois a pour la première fois été explicite. Seule la Russie et les trois pays africains du Conseil, Algérie, Somalie et Sierra Leone, ainsi que leur allié le Guyana, se sont refusés à désigner Kigali comme responsable. Des observateurs supposent qu'ils attendent la position officielle de l'Union africaine. Or, cette prise de position ne devrait pas avoir d'influence sur ce qui se passe à New York, selon la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner.
Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect? Quel instrument international doit-il encore violer pour que ce Conseil prenne enfin les mesures nécessaires contre Kigali? Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain, nécessitant une solution africaine, revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fonde cette organisation.
Une responsable de la MONUSCO a décrit une situation sécuritaire qui se dégrade, des cadavres jonchant les rues de Goma et les installations de la Croix-Rouge internationale étant débordées. Elle a mis en garde contre les risques d'attaques sur des bases ethniques dans l'est de la RDC. Karine Otton, New York RFI.
Et face à cette situation à Goma, le président Tshisekedi n'a pas encore officiellement réagi, mais il devrait s'adresser à la nation congolaise en début de soirée, selon ses services. Il ne devrait pas répondre en revanche à l'invitation du président kényan, William Ruto, également président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, et qui espérait réunir les chefs d'État congolais et rwandais à l'occasion d'un sommet extraordinaire de l'EAC aujourd'hui à Nairobi. Cela à l'heure où les condamnations se multiplient donc à l'endroit du Rwanda, on l'a vu avec Carrie Newton à New York. Mais à Kigali pourtant, le gouvernement rwandais réagit également, il répond. Et son porte-parole, Alain Mukuralinda, affirme ne pas craindre les sanctions internationales.
Tant que le Rwanda pourra, au niveau diplomatique et dans d'autres forums, expliquer, à commencer par le Conseil de sécurité, expliquer ce qui se passe réellement, quel est le problème, le Rwanda n'a pas à avoir peur à subir des sanctions. Mais tant qu'on dit qu'il y a un problème de sécurité et que ceux qui doivent prendre les sanctions ont des rapports qui ont été faits par leurs propres institutions, qui disent que le problème que le Rwanda pose est réel, je ne vois pas pourquoi le Rwanda devrait subir des sanctions. Et sauf si on considère que la RDC et son gouvernement n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ce gouvernement se comporte. C'est comme si toutes les responsabilités sont sur le Rwanda et les autres. Eux sont des saints. Est-ce que si on prend des sanctions, c'est cela qui va résoudre réellement les problèmes de ce qui se passe là-bas? C'est une façon d'utiliser peut-être la force ou la persuasion, mais sans avoir réellement discuté et résolu les problèmes qui se posent.
Alain Mukuralinda, le porte-parole du gouvernement rwandais au micro de Lucie Mouillot. Une guerre dans l'est de la RDC sur laquelle on reviendra évidemment sur RFI et vous pouvez d'ailleurs suivre les derniers développements en tout temps, en tout lieu sur notre site internet et nos applications. applications mobiles.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Une semaine après sa remise au président français à Paris, un rapport a été remis hier au président camerounais à Yaoundé. Le travail de 14 historiens français et camerounais sous la direction de la chercheuse Karine Ramondi, qui ont étudié pendant près de 2 ans le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais entre 1945 et 1971. Il en ressort donc un document de 1000 pages confirmant que Paris a bien mené une guerre contre les indépendantistes au Cameroun, une guerre marquée par des violences extrêmes. Florence Maurice, les auteurs de ce rapport invitent Emmanuel Macron à reconnaître officiellement le rôle et la responsabilité de son pays.
C'est bien une guerre de décolonisation, selon les termes retenus dans ce rapport qu'ont mené les autorités coloniales et l'armée française au Cameroun, au même titre qu'en Indochine ou en Algérie. Une guerre totale, estime l'historienne Karine Ramondi, qui se joue sur le terrain militaire, donne lieu à des massacres, des rafles, des déplacements massifs de population, mais s'exerce également sur les terrains administratifs, judiciaires et politiques. Nous avons documenté la mise en place d'une justice racialisée et inégalitaire, a expliqué l'historienne lors de la remise du rapport au président Biya. Ainsi, je cite, qu'un système politique marqué par la censure, l'iniquité et la mise en place de faux partis cooptés par les autorités françaises. Fin de citation. Cette guerre, amorcée selon le rapport dès 1945 après la Seconde Guerre mondiale, s'est intensifiée après l'interdiction de l'UPC, le parti indépendantiste, en 1955. Mais elle ne s'arrête pas avec l'indépendance du Cameroun en 1960. Cette année-là, la France se livre par exemple, selon ce rapport, à des mitraillages et des bombardements aériens d'habitations dans l'ouest du pays. Le document écarte l'utilisation de napalm au Cameroun, mais mentionne le recours à des cartouches incendiaires particulièrement dévastatrices.
Florence Maurice. Un nouvel accroc dans la brouille diplomatique entre la France et l'Algérie. Dans un communiqué officiel, Alger annonce avoir convoqué l'ambassadeur de France. Et cela pour dénoncer des traitements dégradants auxquels auraient été soumis des passagers algériens à leur arrivée dans les aéroports parisiens. Alger dénonce des agissements totalement inadmissibles selon les mots employés dans ce communiqué. Des manifestations hier au Burkina Faso, au Mali ainsi qu'au Niger, car un an après l'annonce, eh bien c'est officiel à partir d'aujourd'hui, le 29 janvier, ces 3 pays de l'Alliance des États du Sahel ont quitté la CEDEAO, la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Des milliers de personnes saluaient donc ce départ hier dans ces 3 États, même si les formalités de retrait doivent encore être négociées. Attention en revanche, David Bachet, ce départ ne vaut pas pour l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest.
Les pays de l'AES ne quittent pas l'UEMOA, qui échappe étrangement aux accusations de manipulation dont la CEDEAO fait l'objet. La liberté de circulation des personnes et des marchandises reste donc garantie dans cet espace de 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Bénin. Dès aujourd'hui, la carte brune automobile CEDEAO n'est plus valable pour les ressortissants de l'AES. Ils peuvent en revanche désormais se procurer le nouveau passeport de leur confédération. Le Mali, le Niger et le Burkina ont déjà annoncé que les ressortissants de la CEDEAO pourraient entrer sans visa dans leur espace. La réciproque devra être négociée. Tout comme les nouvelles règles qui s'imposeront aux citoyens de l'AES installés durablement dans les pays de la CEDEAO, aux entreprises créées par des ressortissants de l'AES dans l'espace CEDEAO et inversement. En jeu également l'avenir des sièges des institutions de la CEDEAO situées dans l'AES ou celui des citoyens de l'AES fonctionnaires à la CEDEAO. Jean-François Akanji Kombe, spécialiste des droits communautaires africains, pointe enfin l'enjeu des programmes financés par la CEDEAO dans les 3 pays.
Avant que ne soit créée l'AES, il y avait 2 canaux par lesquels il y avait des financements de la CEDEAO. Il y avait les projets typiquement CEDEAO, mais il y avait aussi l'appui de la CEDEAO à l'autorité du Liptako Gourma qui couvrait les 3 pays. Il s'agit de solder ces différents projets-là qui vont des grands projets d'infrastructure jusqu'à des tout petits projets dans les villages, auprès de communautés, etc.
Le retrait est désormais consommé, mais la CEDEAO donne encore 6 mois au pays de l'AES pour faire marche arrière, une proposition balayée par les intéressés.
Et la CEDEAO qui communique d'ailleurs ce matin, David Bachet, elle affirme que tant que les modalités de ce retrait ne sont pas intégralement définies et arrêtées avec les 3 pays de l'AES, eh bien les passeports CEDEAO de leurs ressortissants restent pour l'heure valides dans l'espace commun. Concrètement, cela garantit aux ressortissants des pays de l'AES la liberté de circulation au sein de la communauté. Au Tchad, Succès Masra se dit prêt à travailler avec le président, avec son parti Les Transformateurs. L'opposant, qui fut un temps Premier ministre de la Transition, répond ainsi à l'appel de Mahamat Idriss Déby, qui se disait prêt la semaine dernière à tendre une main fraternelle à tous les partis politiques tchadiens. C'est dans un discours diffusé sur sa page Facebook que Succès Masra s'est exprimé. Il reconnaît les résultats des dernières élections législatives, pourtant boycottées par son parti et remportées par le MPS, le parti proche du pouvoir. Succès Masra dit également accorder sa confiance dans les institutions républicaines et au président de la République. Je vous propose de l'écouter.
J'exprime et je réitère notre disponibilité à donner une nouvelle chance à l'avenir de notre pays en acceptant de travailler avec le président de la République pour la stabilité et le développement de notre pays. Hier, comme aujourd'hui, nous sommes disponibles au dialogue. C'est pourquoi, dès demain matin, nous sommes prêts à œuvrer avec le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby, pour apporter avec tous autour de la table la valeur ajoutée de notre force politique à ce rendez-vous qui est un rendez-vous républicain au service du peuple tchadien. Saisissons les mains tendues et tendons-nous les mains.
Des propos de l'opposant Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, recueillis par Nadia Benmafoud. Allez, avant de vous laisser retrouver RFI Matin et la suite de votre matinale, un mot sur cette déclaration de Dar es Salaam sur l'énergie. Un document signé hier à l'issue d'un sommet de 2 jours consacré dans la capitale tanzanienne à l'électrification du continent. Les acteurs du développement ainsi qu'une 30aine de dirigeants du continent étaient réunis à l'initiative de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Ils se sont entendus notamment sur la mission 300. Elle consiste à lever des fonds pour apporter de l'électricité à 300 millions de personnes d'ici 2030. 54 milliards de promesses de dons ont déjà été enregistrées. Notre matinale continue avec Andréane Mélard.